Alors nous avions, voilà, nous avons organisé une table ronde, c'est un peu une tradition hein, dans les journées enfance, avec des professionnels. Nous devions, je réexcuse à nouveau Loïc Nicolas, qui est chef de service à l'Institut Camille Blaiseau, voilà, qui a participé à la préparation de cette table ronde, mais qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui nous a donné suffisamment d'éléments, peut-être pour qu'on puisse introduire son point de vue au cours de cette table ronde. Donc la thématique était, voilà, l'idée c'était de s'interroger finalement sur ces pratiques sociales langagières, qu'est-ce qu'ils en font les professionnels, comment ils interviennent, comment ils apprécient la situation. Et comment peut-être aussi il l'interprète. Donc, là, au cours de la réunion préparatoire, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de témoignages, et on a regroupé toute notre réflexion autour de trois grandes questions. Donc, la table ronde va durer environ 45 minutes. Donc, on va essayer de passer une quinzaine de minutes sur chaque question. Première question, vous l'avez à l'écran. On s'est demandé de quoi on parlait finalement dans cette relation entre pairs et on se l'est posé ce matin. On s'est dit, est-ce qu'il y a. Cyril Trimal est revenu dessus en disant c'est de la démarcation, on se met en conformité avec le groupe. Enfin, qu'est-ce qui se joue là-dessus, dans cette relation entre pairs? Pourquoi ça concerne peut-être le registre des émotions, ça concerne le registre des normes, on l'a déjà largement évoqué ce matin. C'est une question culturelle, et puis peut-être aussi quelle est l'intention derrière ces pratiques sociales langagières. Donc ça sera notre première question. De quoi on parle finalement? Un deuxième niveau sur quelle représentation les adultes ont-ils de ces pratiques? Comment ils interviennent, ou pas d'ailleurs, entre l'intervention plus sur le registre justement de l'émotion à une réaction peut-être plus autoritaire. On verra tout ça. Et puis, quels enjeux, le troisième niveau, c'était quels enjeux pour une équipe de professionnels? Le rapport à l'autorité, la question du sens finalement de ce qui va être demandé. Et puis, si on a le temps, aller jusqu'à finalement les enjeux de formation sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a nécessairement une réflexion à avoir au niveau des professionnels? Est-ce que c'est nouveau? On l'a évoqué ce matin, on a dit finalement ce sont des questions bien anciennes. Voilà. Donc trois axes. Je vous présente nos deux intervenantes. Anne-Marie René, donc conseillère d'éducation populaire et de jeunesse à la direction jeunesse et sport. Hein. Voilà. Et puis Aurélia Butet, conseillère principale d'éducation au lycée Malherbe et chargée de la formation des CPE, que je remercie, des étudiants CPE en tout cas, que je remercie pour leur présence et pour leurs interventions ce matin, qui était tout à fait intéressante, et je vous encourage vivement à continuer à intervenir après la table ronde. Donc 45 minutes de table ronde et 30 minutes d'échange avec vous. Donc n'hésitez pas à noter des questions. On ne va pas interrompre la table ronde entre chaque question, mais voilà, on aura largement le temps d'échanger ensuite. Eh bien, on va partir sur notre premier point. Qui ouvre le bal? De quoi on parle finalement quand on parle de ces pratiques sociales langagières? Mesdames.
Est-ce que tu veux commencer? Vas-y, commence.
Allez, Aurélien.
Alors, on s'est posé effectivement cette question de quoi on parle, parce qu'il nous semblait que dans un premier temps, il fallait interroger la question de la relation des jeunes entre eux et de l'intention qui était portée dans les pratiques langagières pour comprendre ce qui pouvait nous bousculer. Et donc, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était une question qui était interprofessionnel, hein, qui ne concernait pas que ce qui se passait dans la cour de récréation, mais qui pouvait interroger tous les espaces de socialisation des enfants. Et ce qui ressortait, c'était parfois la difficulté, on en a parlé ce matin, à décoder cette intention, à pouvoir comprendre ce qui se jouait, et notamment la manière dont les pratiques langagières étaient reçues par les autres enfants lorsqu'il s'agissait de jeux, de vannes, en tout cas d'interactions qui, aux yeux des adultes, pouvaient parfois sembler soit ordinaires, soit dérangeantes, mais qui, de toute façon, suscitaient réaction chez l'autre jeune, et donc la difficulté parfois à décoder cette intention et à pouvoir se positionner en tant qu'adulte face à cette intention. Et cette difficulté, elle nous paraissait être liée aussi à la question de notre propre système de valeurs et des normes qui nous permettaient de décoder. C'est-à-dire que ça, la banalisation ou peut-être la surréaction face à des propos pouvait être liée à la manière dont nous placions le curseur à partir de nos normes personnelles, plus que de normes qui, a priori, au départ, étaient professionnelles. Donc c'est un peu ce qu'on a entendu ce matin aussi dans les échanges, il me semble, c'est de savoir comment on qualifie un comportement qui est acceptable, un propos qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas.
Avant de poursuivre... Je vais juste repréciser le contexte dans lequel j'interviens. Les jeunes dont je vais vous parler, c'est les mêmes que vous connaissez, qui fréquentent les établissements scolaires, sauf que bah, dans le milieu enfin, de l'association, ils y vont plus par volontariat, notamment au niveau des ados. Donc je vais surtout représenter là les locaux ados et puis aussi les accueils de loisirs. Bon, les enfants, c'est plus subi, mais généralement, les locaux, enfin, les ados, quand ils vont dans les locaux ados... c'est moins subi, c'est plus par choix. Donc déjà, il y a un changement de comportement avec la base du volontariat, en fait. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont envie de y aller. Sinon, en fait, bah, ils restent chez eux. Donc déjà, on voit cette différence de comportement, dont certains des animateurs ou des animatrices de locaux ados disent bah, « Nous, on n'a aucun problème de violence, en fait, avec tel jeune ou tel jeune », alors qu'ils ont échangé avec le ou la CPE, et que bah, dans la cour, par exemple, il y a beaucoup de bagarres ou de conflits, ou ce rapport avec l'adulte. Je précise ça, c'est pas pour minimiser toute la violence qui existe, parce qu'elle est bien là. Elle va plutôt se faire différemment, en fait. Elle va plutôt être marquée entre pairs qu'avec l'adulte. Et donc là, oui, il y a un côté à la fois banalisation aussi de certaines violences, et notamment des gros mots. Exemple... récemment, en fait, où je suis arrivée sur une structure locale ado, et en fait, il y avait les jeunes, mais je crois que dans la phrase, il y avait cinq mots, il y avait trois gros mots. Et puis, en fait, alors, c'était peut-être des gros mots, comme on a vu ce matin, ça m'a fait sourire, les petits gros mots et les grands gros mots. Alors, je vais être vulgaire, hein, j'annonce, le putain fait chier, ça passe. Mais il y a d'autres gros mots voilà, qui passent pas. Et donc, en fait, en fonction de certains professionnels, il va y avoir des réactions aussi en fonction bah, de eux, de leur code. Et donc ça, c'est aussi à prendre en compte, où certains vont faire la chasse aux gros mots. Alors là, ça va être tout le temps, et peu importe les circonstances, et peu importe la situation. Et d'autres vont plutôt minimiser en disant « Oui, non, mais là, ça lui a échappé, ou ça lui a échappé... » Elle ne s'est pas fait exprès, ou c'est leur façon de parler. Il faut aussi que jeunesse se fasse. Ah, alors ça, cette phrase-là, qu'est-ce que je peux l'entendre ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout accepter ? Non. Enfin, voilà, il y a certaines choses aussi qui vont changer par rapport à ça. Au niveau aussi de l'âge des animateurs et des animatrices, qui vont aussi, on va dire, accepter plus de choses si la différence d'âge est plus réduite que bah, si plus expérimenté, on va dire, pour pas dire plus ancien ou plus ancienne. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et ce qui ressort là depuis un an ou deux, vraiment, c'est les propos de sexistes qui avant ne remontaient pas et qui remontent de plus en plus. Et ça commence aussi de plus en plus jeune, notamment avec les 9-11 ans. Une autre anecdote, j'étais donc sur une structure en train d'évaluer une directrice stagiaire. On rentre dans la pièce où il y a une animatrice qui anime un temps de ce qu'on appelle vie collective, donc répartition des tâches. Et à un moment, elle demande, elle dit bah, qui va faire le. Enfin, donc répartition des tâches, on était sur ranger la salle, passer le balai, etc. Et à un moment, il y en a un, donc un plus jeune qui doit avoir 10 ans, qui désigne sa petite sœur en disant ah, c'est son taf. Et là, en fait, je regarde comment va être gérée la situation. Je m'attends, hein, en tant que professionnelle, à qu'il y ait une réaction. Et en disant, bon, vas-y, arrête de parler, tu parles trop depuis tout à l'heure, fais quelque chose. Et là, en fait, je me suis dit, bah, banalisation de la violence, où aller accepter ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience des professionnels là sur le... Bah, sur le terrain là, de ce point-là. Bon, après, j'ai repris avec la directrice. Mais il y a aussi des fois de se sentir dépassé par les professionnels et ils ne savent pas comment agir. Et des fois, ils préfèrent soit faire semblant de ne pas entendre, soit de dire « bon, c'est pas grave, il est petit, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit ». Donc voilà de ce qui peut... Oui, je vois des têtes qui font ça, oui, on est... c'est une excuse, on va dire, c'est plutôt une excuse. Après, des fois, il ne faut pas forcément réagir tout de suite, hein, c'est ce que je suis pas en train de dire, mais voilà, comment c'est repris après et comment bah, cette violence, elle peut être travaillée et reprise ensuite en équipe.
Je vais juste compléter par rapport... Loïc Nicolas avait évoqué que... lui, il avait ajouté en ITEP, il y avait la question des réseaux sociaux et ce qui circulait sur les réseaux, on l'a évoqué ce matin. Il dit que c'est vraiment sur des jeunes avec des troubles du comportement, c'est pas simple, notamment au niveau des propos sexualisés. Il dit que là, ils ont une vraie difficulté, en tout cas les éducateurs au niveau de l'ITEP. Ça existe de plus en plus. Et c'est lié aussi au fait qu'ils sont confrontés à l'image, des images pornographiques qui font qu'il y a tout un langage qui se développe autour de ces propos sexualisés. Et puis un autre point, toujours sur ce qu'elle, sur ce, finalement ce que ce, de, pour essayer d'identifier de quoi on parle. Loïc Nicolas disait que chez les jeunes en ITEP, ce qui joue aussi, c'est les troubles de l'attachement. C'est-à-dire que ce trouble de l'attachement fait qu'il peut y avoir dans la pratique langagière que le jeune va venir attaquer le lien finalement. Donc il expliquait que le principe, c'est qu'il y a toujours il y a le fait qu'il faut qu'il y en ait un qui soit exclu, par exemple dans un jeu, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit de côté, et que s'il y en a un qui est sorti, eh bien qu'il rentre à nouveau, il faudra en sortir un autre. Donc voilà, il expliquait que ça peut être lié aussi, cette question des pratiques, en tout cas en ITEP, à cette question du lien avec les troubles de l'attachement et puis à cette question des propos hypersexualisés liés aux réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voulez compléter.
Alors, peut-être pour compléter et puis pour reprendre aussi des choses qu'on a pu évoquer ce matin. Alors moi, je suis CPE, donc j'interviens avec une équipe d'AED. Et ce qui est frappant, c'est justement peut-être la difficulté à savoir quand intervenir, puisque les propos qui sont tenus par les jeunes sont généralement, quand nous, on intervient, tenus dans des espaces où ils sont sur du temps libre, du temps de socialisation entre eux. Et de se poser la question de comment est-ce qu'on intervient justement pour réguler et quel est finalement le moment où on considère que la conversation qui est en train de se dérouler interroge la relation éducative. Et donc ce qui me frappait ce matin, c'était justement de lire dans les propos tenus par... les jeunes filles qu'elles considéraient que les surveillants étaient, enfin les AED étaient mous, donc devaient absolument intervenir, réguler. Alors que nous, professionnels, notre question, c'est de conserver un espace finalement qui leur est propre, sans être dans l'hyper-intervention et le contrôle. Donc c'était assez frappant de voir que finalement, nos préoccupations professionnelles de un certain respect d'intimité n'était pas forcément entendu comme tel. Donc peut-être qu'il faut justement qu'on arrive à clarifier ce positionnement. Et c'est la question peut-être aussi de la professionnalisation. Est-ce qu'on peut se professionnaliser sur ces questions, d'autant que les AED, la particularité, c'est qu'ils exercent, des missions qui sont particulièrement exigeantes sans formation. Ils ont une formation sur le terrain qui est en général décousue, très disparate en fonction des territoires. Et c'est d'autant plus compliqué pour eux de se positionner avec une proximité aussi parfois dans le langage qui ne leur permet peut-être pas toujours de décoder véritablement les situations. Et de pouvoir intervenir du point de vue de la posture professionnelle que l'on attend.
Justement, je vous poserai une question à toutes les deux. Est-ce que c'est seulement possible ? C'est-à-dire, vous parliez de l'inacceptable, de l'acceptable, de l'espace propre. Anne-Marie, vous disiez qu'en fonction des personnes, c'est-à-dire selon le jeune, selon la situation, selon les émotions des uns des autres, selon l'âge de la personne qui intervient auprès de ces jeunes, est-ce que c'est vraiment possible de savoir et de cadrer sur ce qui peut être considéré comme acceptable ou inacceptable ?
Ouais, c'est une bonne question dans le sens où ça renvoie à la formation. Donc là, dans le cadre professionnel où je travaille, ça serait la formation des directeurs et des directrices qui seraient capables d'accompagner leur équipe par rapport à ces questions-là et de faire aussi en situation... Alors, je ne vais pas vous faire une réponse de normande, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais en fait, en fonction du contexte et puis des jeunes et des enfants et aussi de l'équipe, ça serait de prendre en compte, en fait, toutes ces personnes-là pour réfléchir ensemble et aussi d'arrêter de réfléchir à la place des jeunes, mais aussi des fois de les mettre parfois autour de la table et de dire... En fait, voilà, vous utilisez des mots, ok, alors on sait que c'est vos codes, construction de l'identité, etc. Mais il y a des mots, en fait, qui peuvent être violents, en fait, dans l'intonation. En fait, c'est pas la même chose de dire « wesh », puis de dire « ouais, vas-y, wesh ». C'est pas, voilà, l'intonation n'est pas la même. Et d'en discuter aussi avec les jeunes, parce que se former, oui, bien sûr, mais aussi de se poser autour de la table avec les jeunes pour en discuter et pas que dans des temps informels.
Oui, Luc Nicolas disait que finalement la plus grande difficulté c'est d'accompagner les adultes, c'est pas de se retrouver confronté au langage aux pratiques langagières des jeunes. C'est justement de travailler avec les adultes sur, mais on y reviendra peut-être après, mais sur la question du seuil de tolérance par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire un certain nombre de valeurs qu'on veut défendre. Donc cette question du seuil de tolérance, elle était réapparue dans notre réunion préparatoire à nombreux moments. Essayer de comprendre finalement ce qu'est l'acceptable ou ce que serait l'acceptable ou l'inacceptable.
Alors, sans doute que la formation peut y aider, mais elle n'est pas suffisante justement à pouvoir identifier ce qui est acceptable ou ce qui est inacceptable, puisqu'on le voit bien hein, dans les équipes, il y a une vraie difficulté à avoir un discours commun. et à établir des règles communes. Donc ça montre bien que même lorsqu'on a une même formation ou que, qu'a priori on est animé par les mêmes intentions éducatives, pour autant, il y a sans doute des choses qui viennent s'intercaler dans la manière dont on apprécie les situations. Et prendre en compte le contexte et la situation personnelle de l'enfant qui transgresse, par exemple, c'est déjà finalement introduire une sorte de filtre pour lire la situation, c'est-à-dire qu'on projette nous-mêmes une signification sans, effectivement, comme tu le disais, Anne-Marie, sans interroger le sens que l'enfant, lui, met derrière ses propos. C'est-à-dire qu'on interprète, on est dans l'interprétation et parfois, peut-être, dans la surinterprétation. Et donc ça, c'est une vraie difficulté qui peut se résorber en partie par la formation, c'est-à-dire par notre attention qui est attirée sur un certain nombre de points, sur la vigilance qu'on peut avoir. Mais ça dépend aussi peut-être des émotions, les nôtres cette fois-ci, de la manière dont on entend ce qui est dit, dont on vit la situation de manière interposée finalement. C'est-à-dire qu'on peut projeter nous-mêmes un certain nombre de choses sur ce qui se joue devant nos yeux.
Oui, vous l'aviez évoqué à la table ronde en disant que finalement, souvent, on était sur le registre de l'émotion et que cette émotion, elle l'emportait sur toute compréhension, tout échange, voire même sur la confiance, la relation de confiance que l'on pouvait mettre en place. Donc, il y avait ce rapport entre surinterprétation, effectivement, et le registre des émotions, avec à quel moment l'émotion prend le dessus sur la réflexion. Et alors, un autre point avait été évoqué quand on avait présenté, c'est la question de la temporalité. C'est-à-dire, on intervient finalement, en tant que professionnel, on intervient dans quelle temporalité? Est-ce qu'on intervient tout de suite avec sur le mode de la sanction, sur le mode de l'interdit, est-ce qu'on intervient sur le moyen terme et on met en place peut-être un certain nombre d'échanges ou d'ateliers? On a évoqué des ateliers ce matin. Est-ce qu'on est plutôt dans une perspective de plus long terme? Donc la question, elle est là aussi, c'est-à-dire comment on travaille émotion et explication, confiance, et en même temps, dans quelle temporalité?
Avec la prise en compte aussi de l'auditoire, c'est-à-dire dans la contextualisation, c'est aussi la prise en compte de l'auditoire et de la portée de ce qui est dit. Et je pense que ça, ça intervient souvent, c'est-à-dire que ça peut même être source de surinterprétation, de surréaction, lorsque les propos sont tenus face à un auditoire plus grand. Lorsque certains propos qui nous heurtent sont tenus entre deux enfants, mais finalement d'une manière assez confidentielle, je pense qu'il y a moins de surréactions. Et ça interroge finalement cette place de l'auditoire, en fait, et de la parole publique dans la considération qu'on aura de la transgression ou pas.
Voilà, là-dessus, sur ce rapport entre le... Relation duel ou relation...
Est-ce que le contexte actuel, où on met notamment dans certains établissements le doigt sur le harcèlement, par exemple, je pense au système scolaire ou dans les structures scolaires, est-ce que du coup, ça renforce cette surinterprétation ou cette peur de mauvaise interprétation ?
Ça peut, effectivement, puisque pendant longtemps, on a complètement banalisé, en fait, ce qui se passait dans les espaces de socialisation en dehors de la classe. Donc forcément, que maintenant, il y a une extrême vigilance qui peut même être très intrusive et excessive, puisque on voit bien que les élèves eux-mêmes maintenant nous parlent systématiquement de situations de harcèlement, donc il y a besoin de requalifier et de redéfinir en fait de quoi il s'agit, en repartant aussi bien entendu des intentions en fait derrière chaque pratique langagière, chaque comportement. Mais ça a au moins le mérite de nous permettre de nous questionner sur justement ces intentions, sur ce qui se joue dans ces espaces de socialisation, et de pouvoir rediscuter du sens au minimum, sans être forcément dans de la régulation qui serait autoritaire, mais en tout cas de pouvoir questionner avec les élèves les mots utiliser la façon de se comporter, le sens qu'on y met, la façon dont ça peut bousculer, alors soit les adultes, mais pas seulement. Et c'est tout l'enjeu des réflexions actuelles sur la communication non violente, mais aussi sur la question de la préoccupation partagée. Et je pense que c'est en train de devenir une préoccupation partagée, ce qui est plutôt une bonne chose.
Sur le harcèlement, donc les équipes d'animation qui m'ont remonté les choses, ça a permis de libérer la parole pour les jeunes, des fois qui se questionnent sur une situation et en fait qui ne vont pas oser en parler directement, notamment au sein de l'établissement, mais qui vont aller questionner l'animateur ou l'animatrice en disant « mais ça, est-ce qu'on peut appeler ça du harcèlement ?» ou « est-ce que c'est du harcèlement ?» ou « l'autre, il est en train de me harceler, là ?» Enfin, il y a toute cette question-là où ça questionne en tout cas les jeunes et ils vont se référer, avant d'aller voir l'AED ou le CPE, à un autre adulte tiers. Donc quand ils fréquentent les locaux ados, ils vont voir l'équipe d'animation. Des fois, c'est l'équipe d'animation qui est démunie par rapport à la situation, bah parce qu'ils n'ont pas tous les éléments, ils n'ont pas tout le contexte, ils ont la version du jeune ou de la jeune, comment ils l'ont ressenti, comment ils l'ont vécu. Donc là, ça serait plus à se questionner sur la formation en fait, des équipes d'animation, sur comment ces professionnels-là accueillent la parole de l'enfant, la prennent en compte, sans minimiser, mais sans non plus dramatiser. Donc oui, là, ça pose une autre question, mais en tout cas, ça a libéré la parole par rapport à ça, et ça a pointé aussi la limite de la formation par rapport aux professionnels.
Oui, peut-être compléter sur cette question de la requalification, et puis peut-être d'essayer de trouver de s'entendre peut-être sur un certain nombre de préoccupations partagées, ou en tout cas d'avoir peut-être une grille de lecture. Ça joue au niveau des jeunes et ça joue aussi au niveau des professionnels. Et Loïc Nicolas disait que la vraie difficulté, c'était... alors peut-être qu'on parle des ITEP, donc on est sur des jeunes avec des peut-être un peu particuliers, avec des troubles du comportement. Mais il disait que la vraie difficulté au niveau de l'ITEP, c'est que il y avait le sentiment d'être, en tant que professionnel, de ne pas être suffisamment formé, de ne pas être suffisamment armé, justement pour qualifier même ce type d'acte et situer l'acceptable et l'inacceptable. Donc peut-être, peut-être que c'est plus difficile avec ce public-là, qui est peut-être, il évoquait un public qui est beaucoup plus, peut-être un peu plus difficile, mais voilà. Et que finalement, dans pas mal de cas, un jeune qui pose problème, ou il va être déplacé. C'est-à-dire que le travail ne va pas être fait en termes de quelle est la préoccupation partagée, comment on va travailler peut-être une nouvelle relation de confiance, comment on va pas se laisser submerger par les émotions. Mais lui, il se heurte plutôt, il disait « je me heurte à des professionnels qui veulent trouver dans une temporalité très courte une solution et souvent une solution de mise à l'écart ou une solution de déplacement ou d'exclusion. » Donc alors je rappelle bien qu'on est sur un public peut-être un peu différent, mais voilà, lui, il disait que c'était pas tellement, c'était plus une question, il s'interrogeait sur la question de cette requalification des professionnels et de la manière dont ils allaient traiter la situation de manière plus dans l'urgence et moins dans une dynamique, pas une dynamique, mais dans une perspective éducative.
Non,
Parce que souvent, l'urgence, elle est liée au contexte d'exercice. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a certains temps où il faut rétablir rapidement le calme. Donc avec peut-être une réponse qui peut paraître expéditive. La question de requalifier, elle va se faire au long cours. C'est-à-dire qu'il va falloir très certainement reprendre a posteriori ce qui s'est passé, les émotions ressenties par tout le monde. Si je me souviens bien, en fait, il parlait surtout cette fois-ci de l'émotion que l'adulte pouvait ressentir face à un propos qui lui était tenu, adressé, et donc au fait de se sentir attaqué dans son statut. C'est souvent le cas aussi pour les AED, hein, qui sont en contact quotidien avec des jeunes gens qui, même s'ils n'ont pas de difficultés, comme les jeunes d'ITEP, attaquent la relation éducative constamment, sont en train de tester les limites. Et donc, généralement, il y a une réponse un peu immédiate qui n'est pas toujours dans le registre éducatif et qu'il faudra étoffer, en fait. Hein. L'idée, c'est de construire ensuite, en reprenant ce qui s'est passé et en disant, bah, là, tu vois, je réagis comme ça parce que, à ce moment-là, moi, j'entends ce que tu dis de telle manière. Et ce travail-là, il est peut-être absent, ou en tout cas fait partiellement, faute de trouver les espaces et le temps pour le faire. C'est-à-dire que les gens sont absorbés dans un quotidien qui les amène à ne pas pouvoir construire ce sens-là. Et revenir sur la question de ce que je ressens, parce qu'on l'a dit ce matin, en fait, hein, l'insulte, elle n'existe que lorsque quelqu'un se sent insulté. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir entendre l'intention, mais aussi la réaction que ça a produit. Et on parlait du harcèlement, c'est la même chose, en fait. Les élèves nous disent régulièrement en entretien, mais madame, c'est rien ce que j'ai dit. Sauf que c'est pas rien pour celui qui l'a entendu. Et qui l'a entendu de telle façon, avec telle résonance, parce que tel contexte. Et c'est, je pense, ça qu'il faut réussir à reconstruire, alors aussi bien avec les élèves qu'avec les adultes, qui constamment se sentent eux aussi fragilisés, attaqués, une remise en cause de l'autorité. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on parlait ce matin de civilité ou d'incivilité, d'acceptable ou d'inacceptable. En fait, je pense que le curseur, il se situe sur la manière dont on ressent ce qui a été dit. C'est ça qui définit ce qui est acceptable ou ce qui est inacceptable. Et donc, ce n'est pas forcément une question de règles, ce n'est pas forcément une question de normes, mais c'est une question de l'émotion que ça a suscité chez moi, au moment où j'entends ça.
Pour rebondir sur ce que tu dis et ce qui a été dit ce matin, donc l'insulte, c'est quand la personne se sent insultée. Des fois, les jeunes vont parler entre eux, ils vont avoir une intonation. Et en tant qu'adulte, on va le prendre comme une agression ou une insulte. Alors que quand on revient là-dessus, les deux disent « Non, mais en fait, il n'y a pas de souci ». Là, ça peut renvoyer aussi « En gros, le souci, là, c'est l'adulte ». Et après, comment on gère ça aussi, si on est aussi dans l'émotion, si de gérer cette situation-là, est-ce qu'on dit rien? Ça renvoie aux questions, ce qu'on a dit en tout début, est-ce qu'on intervient quand même, est-ce qu'on n'intervient pas? Ça renvoie aussi à ça, où des fois les jeunes entre eux nous font bien comprendre que c'est l'adulte en fait le problème et pas leur façon de parler. Je voulais revenir aussi sur tout à l'heure quand on a commencé la conversation sur le fait de changer de structure. Dans les échanges qu'on avait eus donc avec Loïc Nicolas, il s'était dit aussi que c'était une façon de déplacer le problème en fait, d'envoyer un jeune dans le milieu du social, dans une structure vers une autre. C'était pas toujours se poser les questions sur le fond, mais de déplacer le problème et que ça le réglait pas parce que ça allait être en fait un autre établissement du social qui allait récupérer le problème ou un autre problème qui va émerger de tout cela.
En parlant de déplacer le problème, on peut imaginer, par exemple, dans une salle de classe ou dans un endroit, un professeur qui se sent insulté, qui va déplacer le problème pour envoyer, exclure l'élève de la classe et de lui dire d'aller à la vie scolaire. Comment recevoir l'émotion de l'élève sans recevoir, qui peut penser que c'est une injustice ou que sais-je encore, et sans recevoir vraiment l'émotion de l'enseignant lui-même. Comment faire, comment se positionner en tant que CPE, AED, qui reçoit finalement l'élève exclu.
Alors après, on a quelques stratégies professionnelles qu'on peut mettre en place, comme de différer justement l'entretien qu'on aura avec l'élève pour avoir le temps de nous entretenir avec l'enseignant, de telle sorte qu'on respecte aussi un peu le principe du contradictoire, en fait, que chacun puisse avoir un espace de parole. Et dans l'idéal, il faudrait que l'entretien ait lieu avec l'élève et avec l'adulte, pour que chacun puisse dire justement ce qu'il a ressenti dans la situation et comment cette relation éducative peut se reconstruire. Dans les faits, on n'arrive pas toujours à mettre ça en place. Donc on imagine, on se met dans la situation d'imaginer ce que le collègue a pu ressentir, comment il a pu interpréter la situation pour pouvoir le traduire. On est un peu dans un rôle de traducteur, là, auprès de l'élève, de ce qui a pu se passer, se vivre dans l'espace de classe. Mais avec une difficulté que peut-être que la situation peut être sous-interprétée par celui qui traduit. D'où la difficulté, en fait, de pouvoir réguler parfois en vie scolaire les incidents en classe, puisqu'on peut considérer avec notre propre système de valeurs que cette transgression nous paraît minime, disproportionnée, et donc et que la réponse est disproportionnée, ce qui nous met dans une situation presque de conflit de loyauté. À qui va la loyauté? Est-ce que c'est à l'élève? Est-ce que c'est au collègue? Et donc il faut se prémunir de ça, en fait, pour rétablir. L'idée, c'est non pas de prendre parti, mais de rétablir une relation éducative qui va être indispensable, quoi qu'on pense d'une situation ou d'une autre, en fait. Et donc de se mettre plutôt en position de médiateur que de juge, quoi, en fait.
Mais c'est une vraie question. Benjamin Moignard l'avait évoqué. C'est un chercheur qui travaille sur les exclusions temporaires de classe et qui montrait très bien qu'il pouvait y avoir, on l'a évoqué dans la préparation de la table ronde, une forme d'exaspération à négocier, renégocier, essayer de trouver des solutions, des compromis en permanence. Il y a un moment où l'adulte va trouver une certaine facilité finalement à exercer presque un certain pouvoir, à dire c'est comme ça et c'est pas autrement, et je ne discute plus, et je ne cherche plus à trouver ou à réfléchir sur les préoccupations partagées. Donc il y avait ce moment où effectivement on est dans le registre éducatif, où on va essayer de... Et cette tension qu'il peut y avoir, et ça on l'avait évoqué aussi, entre ce qui se passe dans les classes avec l'enseignant, qui va être sous pression finalement peut-être de son programme et qui va décider que l'autorité, elle ne se discute pas et puis qu'il n'y a pas à aller rechercher ça. Et puis de l'autre côté, ces arbitrages éducatifs qui vont se faire du côté des AED ou des CPE peut-être. Il me semble qu'on peut être aussi sur des logiques dans lesquelles les élèves ne se retrouvent peut-être pas toujours avec une certaine tension, avec des adultes qui ne sont pas très cohérents, je ne sais pas.
Alors ça peut arriver, mais il y a aussi l'idée que on travaille dans deux espaces différents. C'est-à-dire que l'enseignant, lui, il est face à une classe, face à un groupe, et il y a un enjeu qui est un peu différent et pour l'enseignant et pour l'élève. En fait, il y a une relation là qui se joue devant un public, et donc on parlait tout à l'heure de l'auditoire, mais là, ça a une grande part, en fait, dans la prise de décision. Et donc l'adulte va choisir une réponse qui lui permet de rétablir assez rapidement la situation face à un auditoire. quand on est CPE, on reçoit l'élève dans un bureau après l'émotion, donc c'est aussi un peu différent. Et on a un espace là pour travailler le sens de ce qui a été vécu. Donc c'est vraiment deux situations qui sont complètement différentes. Alors après, effectivement, hein, y a des différences notables dans l'application de la règle, le positionnement de l'adulte. On n'est pas tous d'accord, et je pense que les élèves en sont parfaitement conscients. Ils nous interrogent aussi sur le fait que la régulation se passe avec nous, en nous disant mais madame, le problème c'est pas avec vous, donc pourquoi j'en parle avec vous? Voilà. Donc ils sont à la recherche du véritable interlocuteur avec qui ils sont en difficulté, en fait. D'où l'importance, je pense, ce que je disais tout à l'heure, d'être plutôt dans un rôle de médiateur où on remet les deux parties prenantes en situation de communiquer. Parce que sinon, on sert effectivement de tiers, mais on ne recrée pas le lien qui est nécessaire dans la relation éducative, en fait. On est là temporairement en train de faire du lien, mais l'idée c'est que assez vite on disparaisse de cette relation, je pense.
Peut-être une question par rapport au monde de l'animation. Est-ce que ce sont des questions que vous traitez en formation? Est-ce que c'est cette question de la peut-être de comment on réagit par rapport à un certain nombre, comment les professionnels vont réagir, vont interpréter les comportements des jeunes, comment on va intervenir, comment c'est des choses qui sont...
Oui, c'est des choses qui sont étudiées et abordées dans les formations de l'animation professionnelle et volontaire aussi. Donc volontaire, c'est le BAFA, le BAFD. Alors pas assez développé dans le BAFA, BAFD, mais oui, c'est... de recueillir la parole, comment dire, du jeune, mais surtout ses émotions. Et surtout, comment s'adapter face à un public. Donc Pierre Bourdieu disait que la jeunesse n'est qu'un mot, en sous-entendant qu'il y a plusieurs jeunesses, mais ils ont quand même un point commun, c'est la notion d'injustice. Et comment, en fait, gérer ça quand on est professionnel, quand on est tiers, quand aussi, dans la même situation que tu expliquais, où c'est pas avec cet adulte-là qu'il y a eu le conflit, mais que le jeune est encore dans l'émotion, il a besoin de déverser sa colère, ses émotions, ce qu'il ressent. Voilà, comment accueillir, en fait, toutes ces émotions, et quoi en faire après, parce que des fois il faut que le professionnel ou la professionnelle aussi se décharger, donc quand c'est comme ça, généralement elle va voir le directeur ou la directrice, mais voilà, il y a aussi tout ce travail en fait en équipe, ça se réfléchit en fait en équipe quand il y a des questionnements de ce genre là et des fois il faut répondre dans l'urgence. C'est au moins apporter une réponse aux jeunes en lui disant on descend un peu dans le sens tes émotions, voilà, là on en reparle, on aborde le sujet un peu plus tard, je ne t'ai pas oublié, je vais revenir vers toi, n'hésite pas à revenir vers moi. Mais des fois il y a ce côté de comment on se prend tout ça en tant qu'adulte, en tant que professionnel, et qu'est-ce qu'on en fait, parce que ça peut aussi travailler. Après, dans les formations professionnelles, ça, là-dessus, il y a différents temps. Et il existe aussi des temps d'analyse de pratique qui sont aussi exploités pour ce genre de situation.
On entend parler beaucoup de médiation par les pairs. Qu'est-ce que vous en pensez? Pairs, P-A-I-R-S.
Alors oui, c'est une pratique qui est de plus en plus développée. Faut aussi que les adultes, les professionnels soient formés à ça. Ça peut faire peur en disant non, en fait, c'est moi en tant que professionnel qui dois gérer la situation. Alors oui, mais des fois, de se réguler aussi entre jeunes, ça leur permet aussi d'avoir des responsabilités, de prendre part aussi, de prendre position. Et ça peut être un premier niveau. Des fois, c'est plus acceptable pour certains de se faire reprendre. c'est pas, le mot est fort, mais qu'un autre jeune dise non, là en fait t'as été trop loin, t'as abusé, avec leur langage encore, on revient à ça, avec leurs mots, et donc après si ça prend plus d'ampleur, oui l'adulte, le professionnel, et là en fait il est derrière. Faut pas le voir comme le côté qui est, bah, on déverse ça sur les jeunes, ah ils vont régler ça entre eux, et moi en tant que professionnel je recule. Ça fait partie des pratiques aussi bah, pédagogiques qui peuvent être développées et que certains pédagogues, alors ne l'appelaient pas comme ça, mais qui a été utilisé dans certaines pédagogies.
Alors, dans le milieu scolaire, c'est une des réponses qui a été apportée à la question de la violence, notamment dans les cours de récréation, et qui est exploitée sous une forme un peu particulière là, des ambassadeurs sur la question du harcèlement. C'est-à-dire qu'on essaie effectivement de faire en sorte que les jeunes gens soient partie prenante des politiques de prévention et puissent contribuer aux réponses qu'on apporte dans le cadre scolaire. Ça reste quand même une approche qui, je pense, est peu développée, qui tient souvent à des équipes convaincues, militantes qui le portent au départ et assez rapidement, comme beaucoup de dispositifs, ils finissent par ne plus exister ou être sous-exploités parce que c'est difficile à faire vivre en fait. Ça suppose aussi des espaces de régulation pour les médiateurs, hein, pour qu'ils puissent prendre de la distance par rapport à tout ça. Ça suppose des temps de formation. La disponibilité des adultes qui, dans une forme scolaire actuelle, a quand même beaucoup de mal à trouver un espace durable, en fait. Donc c'est souvent une réponse à un moment donné, mais qui a du mal, à, je trouve, à se pérenniser, en fait, dans les équipes.
Merci. On va passer au temps d'échanges.
Moi, je me posais la question vis-à-vis du CPE plutôt, mais ça marche sur les autres professionnels aussi. Si on reçoit un élève et un enseignant et que il faut faire le médiateur entre les deux, mais que le collègue a aussi des torts, à quel moment on peut se permettre de remettre en question la professionnalité du collègue devant un élève ? Parce qu'il y a aussi l'élève qui a ce besoin de justice et de voir que ben, c'est un être humain et qui peut aussi avoir tort. Et je ne sais pas trop comment on peut se placer en tant que professionnel.
Bah, il faut en quelque sorte se prémunir de ce type de situation en préparant cet espace d'échange. C'est-à-dire que je pense que s'il y a un risque, effectivement, de sentiment d'injustice, quand on évalue la situation, ou qu'on sait que finalement la posture de l'adulte va être questionnée, c'est peut-être pas la modalité qu'on va choisir en premier. C'est-à-dire qu'on va essayer de réguler avant, sans doute, cet échange, pour se prémunir d'une situation où on serait obligé de désavouer un collègue publiquement, bien évidemment. Mais en même temps, il faut pouvoir permettre à l'élève de dire ce qu'il a ressenti. Donc ça suppose soit de le préparer en amont, soit d'être extrêmement vigilant au moment où l'entretien se passe pour ne pas aller sur ce registre-là, pour être plutôt sur le registre de chacun exprime ce qu'il a ressenti dans la situation pour pouvoir rétablir le lien. Mais ça suppose que ce soit des propositions faites une fois qu'on a analysé la situation et qu'on sait précisément ce qui s'est passé, en fait. C'est pas forcément une modalité qu'on utilise à chaque fois.
Ouais. Des fois, on se retrouve devant le fait accompli et face à la situation que vous avez soulignée. Ça va être là d'écouter en fait, notamment le jeune et de reprendre en disant « Bon, là, si je comprends bien, tu es dans une situation d'injustice, tu le ressens comme ça. » En fait, c'est de reformuler pour voir si on a bien compris ce que le jeune a dit. C'est déjà une première étape. Il se dit « Bon, au moins, j'ai été écouté, j'ai été compris. » Et après, ça va être de différer en reprenant avec le collègue, comment dire, à part et en expliquant aussi. Alors déjà, voir si il ou elle est dans un état émotionnel, c'est-à-dire capable d'entendre ce qu'on a à dire, en lui disant, je suis d'accord avec le jeune ou la jeune, mais je comprends tout à fait le sentiment d'injustice que le jeune ou la jeune a pu avoir. Mais ça va être de reprendre ensuite en discussion avec le collègue pour qu'ensuite, ça soit le collègue qui soit, on va dire, en réparation par rapport à cette injustice-là. Mais, j'ai envie de dire jamais. Dans l'idéal, hein, on contredit le collègue ou la collègue devant un autre jeune, ça sape son autorité. Et après, ça peut faire l'effet, ces conflits avec vous, en fait. Et puis, et que le prof fasse conflit avec vous. Donc oui, c'est pas des situations agréables à faire.
Juste, peut-être que ça se joue en termes beaucoup plus positifs. C'est-à-dire, la question qui est posée, c'est comment construire une nouvelle relation. Donc, à partir du moment où on pose cette question-là, d'accord, la relation n'est pas satisfaisante, ni pour l'un, ni pour l'autre. Il n'y a pas de jugement. Comment est-ce qu'on pourrait construire? Et là, ça revient à ce qui était tout. C'est-à-dire, quelles sont vos préoccupations? Quelles sont les préoccupations de part et d'autre? Et comment on va essayer, finalement, de s'entendre sur un acceptable médian. Et ça se joue peut-être en termes non seulement de nouvelles relations, mais peut-être aussi de presque de contractualisation. C'est-à-dire, les enseignants se sentent souvent attaqués en disant « Oui, mais ça met le bazar dans ma classe. » Ou c'est donc, à quoi chacun s'engage, finalement? Et l'idée de construire une nouvelle relation, ça peut être, alors c'est pas une question on va s'engager sur la même chose, on va s'engager de manière équitable, mais sur quoi chacun est capable de faire un effort finalement pour trouver un terrain de compréhension, peut-être. Mais souvent on a tendance à penser ces questions-là en termes de problèmes, il y a un problème, il y a une difficulté. En fait, on est sur une question relationnelle, c'est ce qu'on a vu ce matin, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire progresser la relation? La relation n'est satisfaisante pour personne, ok, mais comment on va pouvoir la transformer? Je ne sais pas, c'est juste...
Alors, du coup, moi, j'avais une question par rapport, justement, à l'équipe d'AED. Moi, la question qui se pose, et c'est quelque chose que j'appréhende un petit peu en tant que futur CPE, c'est à partir du moment où il y a une tension dans l'équipe AED et que les élèves s'engouffrent dans la brèche, ce qui arrive très souvent, mine de rien, du coup, comment, en tant que CPE, on peut vraiment gérer la situation sans pour autant mettre l'un ou l'autre en porte-à-faux vis-à-vis des élèves aussi?
Alors là, c'est généralement une situation qui va appeler des réponses sur un temps long, en fait. Hein, parce que ça interroge la relation à l'élève immédiatement, mais ça interroge plus globalement le sens que chacun met derrière ses missions et la portée éducative, en fait, du service de vie scolaire. Donc ça veut dire que dans l'immédiat, il faut rétablir un sentiment de justice pour les élèves, hein, très clairement, et faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'écart dans les traitements des situations, peut-être en rappelant un certain nombre de règles et de normes qui ne sont pas négociables, par exemple. Mais ça veut dire aussi qu'il faudra travailler sur un collectif et de pouvoir se mettre d'accord sur un minimum acceptable ou inacceptable. C'est-à-dire que là, il faudra essayer de résorber les appréciations individuelles pour qu'on soit sur une portée éducative collective. Généralement, ça se travaille autour d'un projet de service pour véritablement avoir une feuille de route commune et un positionnement qui soit le plus possible clair pour les élèves. D'autant que ça leur permet ensuite de réguler leur comportement. Hein. On parlait tout à l'heure de la médiation. On demande aux élèves de réguler des situations. Ils ont besoin d'avoir quand même un minimum de clarté sur les attentes, évidemment, qu'on peut avoir au sein de l'école. Mais là, on sera sur un temps long, en fait, hein, de reconstruction d'une culture commune.
Je vais revenir sur les propos que vous avez eus tout à l'heure au sujet de la posture de médiateur qu'on pouvait être amené à prendre en tant que CPE entre un professeur et un élève, a posteriori du coup des faits. Et je voulais savoir de quelle manière on pouvait réagir si jamais on était sur les lieux des faits, mais dans la salle de classe avec l'enseignant sur son terrain. Est-ce qu'on peut en tant que professionnel, en tant que CPE, réagir ou est-ce qu'on attend que la situation se soit passée pour y revenir a posteriori?
Là, généralement, c'est une vraie difficulté, cette fois-ci, dans l'appréciation de l'urgence à intervenir ou pas. Donc il faut bien sûr intervenir s'il y a une situation de mise en danger immédiate, hein, psychologique ou physique, des gens présents. Et là, on ne se pose pas la question d'intervenir ou pas. Mais sinon, a priori, on n'intervient pas s'il n'y a pas de demande d'aide, si on est sur des transgressions qui interrogent la relation pédagogique. A priori, je n'ai pas de raison de me sentir plus légitime à intervenir que le collègue, sauf s'il me sollicite, en fait. Voilà. Sauf si on est dans le cadre d'une co-animation, d'une co-intervention, et auquel cas l'espace pédagogique est aussi le mien à ce moment-là. Donc ça dépend véritablement des contextes. Mais l'idée en toile de fond, c'est de maintenir la relation élève-enseignant à chaque fois. Et donc si j'interviens à mauvais escient, je risque de briser cette relation, en fait. Donc, toute la question, c'est de savoir s'il y a besoin dans cette relation d'un tiers, pour la pacifier temporairement, par exemple. Mais c'est la même chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure entre les élèves. C'est est-ce qu'il y a besoin de régulation ? Ou est-ce que, finalement, ce qui est en train de se jouer va se réguler entre les deux personnes ? Est-ce qu'il y a besoin d'un tiers ? C'est systématiquement cette question-là, en préservant, bien entendu, l'autorité et la relation éducative entre l'élève et l'enseignant, en fait. J'ai pas de raison particulière de m'ériger en sauveuse du monde si c'est pas nécessaire.
Vous avez parlé de déplacement et d'exclusion. J'ai eu l'impression, peut-être que j'ai mal compris, mais que vous avez utilisé l'exclusion comme, pas un gros mot, mais quelque chose qui est assez, qu'il faut éviter de mettre en place et d'abord apporter la réponse éducative. Mais à quel moment, parce que je comprends bien que déplacer un élève qui pose problème, c'est beaucoup plus facile de le mettre dans un autre établissement, que ce soit scolaire ou du social, mais à quel moment un élève qui n'est pas en accord avec les règles et qui brise cette relation de confiance avec un professionnel, à quel moment on trouve qu'il a dépassé les limites et qu'il faut absolument le changer d'établissement parce que c'est plus possible de travailler avec, et à quel moment on se dit qu'on peut quand même essayer d'apporter cette réponse éducative-là. Parce que j'ai eu l'impression, enfin, c'est peut-être moi, que le mot exclusion était la chose à éviter le plus, et d'abord d'apporter cette réponse éducative.
Alors, exclusion, oui, ça peut paraître comme un gros mot. C'est à éviter, j'ai envie de dire, dans la mesure du possible, le plus possible. C'est une question à se poser ensuite en équipe. Si vraiment on en est arrivé là, on a droit aussi de se dire en tant que professionnel, bah, avec ce jeune-là, avec cet élève-là, là, je suis arrivée à mes limites, j'en peux plus. Donc là, il y a une équipe, hein, y a, que ça soit professionnel dans le social, dans le milieu de l'enseignement ou dans le champ de l'animation. C'est un travail d'équipe avant toute chose, de voir comment à plusieurs on peut régler cette situation-là, voilà, et d'envisager en fait toutes les possibles avant d'arriver à l'exclusion. Après, s'il y a différentes aussi questions à se poser, est-ce qu'il y a danger pour le jeune? Est-ce qu'il y a danger pour les autres? Donc là, la question, elle va être, on va dire, plus rapide à répondre. Si ce n'est pas le cas, faut utiliser un maximum de possibles. Je vais faire une référence à un grand pédagogue qui s'appelle Janusz Korczak, où lui, il mettait en place plusieurs outils pédagogiques, dont le tribunal pour enfants. Et pour exclure un enfant de l'orphelinat, il fallait arriver à l'article 1000. Et c'est-à-dire qu'avant, il y avait plusieurs possibilités, plusieurs propositions. Et ben là, c'est en tant que professionnel, dans le contexte où on est en équipe. Ne pensez pas que vous êtes tout seul ou toute seule face à la situation. Il y a une équipe, vous travaillez en équipe. Et donc, toutes les possibles qu'on peut mettre en place pour la situation. Et puis aussi, je reviens sur ce qui a été dit, sur comment améliorer, comment construire une nouvelle aussi relation pour qu'elle soit plus sereine, à la fois pour le professionnel, parce que c'est pas simple non plus, mais aussi pour le jeune qui se sente bien dans le contexte où il est.
L'exclusion, elle n'est pas bien ou mal en soi, en fait. Hein. Ce n'est pas une question de savoir si c'est bien ou si c'est mal d'exclure. C'est plutôt, à mon sens, ce que l'on fait de cette exclusion. C'est-à-dire comment on va la travailler avec l'élève pour qu'elle fasse sens, en fait. Et la difficulté, c'est que très souvent, lorsqu'elles sont en nombre important, les exclusions, alors soit en nombre important pour plein d'élèves, soit en nombre important pour un élève, elles ne font plus sens. Et on aura beau essayer de travailler les situations, ça ne fera plus sens. Donc la question, c'est toujours cette question de la relation éducative et de se demander, alors quand il s'agit par exemple d'une exclusion définitive, la question que les équipes se posent, c'est est-ce qu'on est encore en capacité de travailler avec ce jeune? Est-ce qu'on a encore de quoi travailler avec lui, alors en termes de ressources, mais aussi en termes d'objets de travail? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer à travailler avec ce jeune de manière constructive ou pas? Ou est-ce qu'il y a besoin que finalement quelqu'un prenne le relais? Et parfois, c'est vraiment cette idée-là, y compris pour les enseignants en cours, hein, l'exclusion, elle est aussi une possibilité de trouver un relais et de construire différemment la relation éducative, ou bien d'avoir une pause aussi dans cette relation éducative qui est usante, hein, très clairement, hein, pour certains. Pour certaines situations, il y a une usure professionnelle qui est importante, et le fait d'exclure l'élève, même si ce n'est pas la réponse la plus probante, c'est au moins celle qu'on trouve sur le moment pour avoir une respiration. Et ça, je crois que c'est important aussi de l'entendre quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire quand on réceptionne les élèves, c'est que même si la réponse, elle ne nous semble pas appropriée, c'est probablement la seule que le collègue a trouvée à ce moment-là. Et ça veut dire qu'il y a nécessité d'ouvrir un espace intermédiaire, là, hein, et d'offrir une pause, une respiration. Parfois même une respiration aussi au reste de la classe, qui lui est témoin en plus un peu captif, d'une relation qui se dégrade. Et donc, ils ont aussi besoin de ça, en fait, hein, d'être un peu protégés de ce qui se joue et d'avoir un espace de respiration. Alors, même si, effectivement, quand elles sont en nombre, les exclusions, elles deviennent problématiques à plein de niveaux sur la vie scolaire. Vous avez sans doute pu le voir quand vous étiez en stage hein, ou dans vos établissements d'exercice quand vous êtes à ED.
Oui, la question que vous posez, elle interroge aussi en amont, ce qu'on va faire en amont pour ne pas en arriver là. Vous voyez, ça c'est quelque chose je trouve qu'on n'évoque pas suffisamment. C'est-à-dire comment on peut créer peut-être les conditions d'une co-élaboration des règles avec les enfants ou les jeunes. C'est-à-dire que si effectivement on a co-élaboré avec eux un certain nombre de règles, ils vont peut-être mieux les reconnaître, ou en tout cas quand on va les avancer comme un cadre contenant, en leur disant « mais oui, mais là, vous les avez co-construites, vous avez adhéré à ce régime-là », ben peut-être que ça sera moins compliqué parce que le cadre aura été partagé, vous voyez. Donc il y avait ça, et puis ça donne aussi un rapport à la responsabilité, au fait qu'ils ont, on peut leur faire confiance dans ce rapport-là. Donc les amener à... estimer, évaluer les règles en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un problème de chahut ou un problème de... On n'arrive pas à travailler, on a besoin d'une règle pour pouvoir mieux travailler ensemble. Sur quoi on se met d'accord? Comment on va mettre en place cette règle-là? Et puis finalement, à quoi on s'expose, mais sans aller à l'exclusion, mais à quoi on s'expose en pédagogie freinée? On s'expose à une perte de responsabilité, par exemple. Un gamin qui exerce un métier en pédagogie alternative, il va perdre l'exercice de la responsabilité qu'il avait. Il n'est plus ressource pour les autres, il ne peut plus être tuteur, il peut plus... Et là, on est dans une démarche éducative qui peut être... Donc bien avant, je suis assez d'accord avec Anne-Marie, bien avant d'arriver à l'exclusion, il y a peut-être aussi en amont à mettre en place un certain nombre d'ateliers. Et vous allez être au cœur de ça. Donc, les ateliers avec les jeunes, essayer de... Alors, peut-être qu'il faut... Il y a tout un travail à convaincre les adultes que les jeunes, ils ont aussi leur place à part entière dans l'élaboration de ces règles communes, ces règles... Voilà, ce sur quoi on va s'entendre, finalement. Ça va peut-être être à minima. Mais ça, il me semble que ça peut déjà, on peut déjà imaginer tout un tas de sanctions qui sont actuellement peut-être très, très inutiles, quoi. Voilà. Et Benjamin Moignard, il en parle très très bien de ça. Il dit c'est pas parce qu'un gamin a un chewing-gum dans la bouche qu'il faut l'exclure de cours. C'est pas parce que voilà. Donc on voit bien qu'il y a une vraie réflexion à avoir autour de ça et à décoder de part et d'autre. Qu'est-ce que je veux dire quand je garde mon chewing-gum dans la bouche? Qu'est-ce que je dis au prof? Et de l'autre côté, comment le professeur le reçoit? C'est-à-dire qu'il y a un travail à jouer des deux côtés. Mais peut-être en amont, il y a davantage à avoir un projet avec eux de comment on peut bien vivre ensemble dans l'établissement et comment on peut bien travailler ensemble. Voilà. Il y a peut-être un travail, vous voyez, déjà sans imaginer que ça y est, on est déjà arrivé dans ces problèmes. Mais j'ai tendance à... Voilà. Quelles sont les conditions d'une bonne relation dans un établissement? Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, mais eux, c'est quoi pour eux une bonne relation? Vous voulez compléter? Puis avant que la dame intervienne, je veux juste rajouter quelque chose. Aurélien a dit, il y a celui qui est exclu et puis il y a les autres qui restent. Et ça, je pense qu'il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire le travail avec ceux qui restent, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est mis à l'écart que ceux qui restent, il ne faut pas travailler avec eux sur ces questions-là. Et ça, c'est quelque chose qui me semble aussi assez important. Parce qu'à un moment, l'enfant va revenir ou un autre va revenir. Et ça va, si on n'avance pas sur ces questions-là, ça va être... compliqué. Excusez-moi.
Pas de souci. Bonjour. Alors moi, je voulais juste... Alors, sur une petite remarque sur l'exclusion. Cet outil n'existe pas en primaire. Donc il y a d'autres choses qui sont mises en place pour voilà, parce qu'on n'a pas cet outil-là. Voilà, donc ça c'était juste une remarque. Et la respiration n'est pas possible avec des élèves qu'on a toute la journée, parfois, enfin voilà. Ça c'était juste une petite remarque. Et la deuxième, moi, c'était plutôt sur le langage. Vous avez évoqué le langage sexiste. Est-ce qu'il y a une montée du langage raciste? Voilà, plutôt... Enfin, une montée, c'est-à-dire... je ne sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a un peu une libéralisation de, sans, voilà, sur ce langage qui, moi, je trouve, qui rentre dans la normalité dans les médias. Donc, voilà. Est-ce que ça reflète aussi ce... Je ne sais pas si je suis très claire. Hein, mais, voilà.
La question, c'est est-ce qu'on peut avoir une réponse là-dessus ? C'est autant... Loïc Nicolas avait évoqué la question des propos sexistes, mais il avait des exemples très précis, le rapport au réseau, aux vidéos pornographiques, etc. Donc, il avait donné un certain nombre... voilà.
Alors, je vais faire un... plutôt dans les situations rencontrées, voilà, à gérer. Est-ce qu'il y a aussi toutes ces situations... peut-être autour du racisme, etc.
C'est pas observé dans les locaux ados, ça va plutôt les interpeller en disant qu'en fait ça se fait pas ce qu'ils ont entendu hier ou ce qu'ils ont vu hier voilà, dans les médias ou ce qu'ils ont entendu. Voilà, ils vont plutôt, ça va plutôt les choquer ou les... Enfin, pas tous, ils vont pas tous être choqués, mais en tout cas ça va les interpeller et ils vont aborder le sujet avec les équipes d'animation en disant bah non en fait ça, enfin on devrait pas avoir ces propos là. Voilà ce qui m'est remonté moi par rapport aux locaux ados. Aurélien.
Je voulais juste réagir en fait à ce qui vient d'être dit, parce que j'interviens tout à l'heure sur une autre recherche, mais actuellement je mène une recherche qui est en lien justement avec des réactions d'élèves à des propos perçus comme racistes tenus par des enseignants et des enseignantes. Et sans doute que le contexte particulier, effectivement, de libéralisation d'une certaine parole qui peut être perçue comme raciste par des élèves, participe à ça. J'y pensais, en fait, lorsque vous en parliez, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des adultes qui soient choqués par des propos tenus par des élèves sans que les élèves comprennent, en fait, la portée de ces propos. Mais y a clairement aussi des élèves qui peuvent être choqués par des propos tenus par des adultes sans que les adultes comprennent du tout en fait la portée de ces propos là et dans l'étude que je mène c'est très global, c'est à dire que les adultes ne comprennent pas pourquoi les élèves ont perçu ces propos là comme étant des propos racistes et enfin voilà, juste une petite remarque de ce type là.
Alors pour ma part, moi je suis plutôt pas en capacité de répondre à cette question, parce que en fait c'est pas une question qui se pose dans mon établissement particulièrement, donc je ne sais pas quelle est la réalité, je l'ai pas évoqué avec mes collègues, donc je sais pas quelle est la réalité en fait dans les établissements Canet ou environnant, mais en tout cas je peux témoigner que dans mon établissement c'est pas une question qui se pose en fait. Ce qui les interpelle davantage c'est ce qui a trait à la sexualité et au genre en fait hein. C'est plutôt dans ce registre là qu'ils peuvent se sentir offensés ou être sujets d'offense, mais voilà, c'est sur la question des propos racistes, en tout cas, c'est pas remonté jusqu'à moi, si ça existe.
Une dernière question.
Moi, je veux juste rebondir sur les propos de Marin concernant les exclusions. Du coup, si jamais un collègue enseignant abuse beaucoup des exclusions, et que les élèves se plaignent malheureusement de cet enseignant sur le fait que, je ne sais pas, les cours c'est le bazar, etc., etc. Quelle est notre posture à nous en tant que CPE? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Parce qu'il y a d'un côté la parole des élèves qu'il faut écouter, parce que si le cours est perturbé, ils n'apprennent pas, etc. Et puis eux deviennent encore plus dissipés, du coup. Et par contre, après, l'enseignant, pareil, enfin, le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la direction, même des élèves. Du coup, voilà, quelle est notre place en tant que CPE?
Bah, là, on a plutôt un rôle de conseil en fait à jouer. Alors auprès de plein d'acteurs. Hein. Donc évidemment, généralement, on est saisi alors soit par les élèves, soit par l'enseignant, soit les deux. Et auquel cas, on va avoir un rôle de conseil auprès de l'enseignant. Auprès des élèves sur ce qu'ils peuvent mettre en place, qui ils peuvent solliciter, comment ils peuvent intervenir auprès de l'enseignant éventuellement. Et puis on a un rôle de conseiller du point de vue de la communauté éducative, là, où on va généralement tenter d'amorcer un travail plus collectif sur la prise en charge des difficultés en classe. Mais généralement sur un temps plus long, où là, on sera davantage dans un rôle de conseiller auprès du chef d'établissement et de la communauté éducative. Mais a priori, dans un premier temps, on est plutôt sur une posture de conseil, hein, puisque ce qui se passe dans la classe se passe généralement sans nous. Donc on ne peut pas intervenir en tant que tel sur ce qui se joue dans l'espace classe. Par contre... on peut intervenir en tant que conseil, et notamment l'un des conseils, hein, c'est de rappeler aux élèves qu'ils ont des représentants qui leur permettent d'interpeller l'enseignant éventuellement, ou de solliciter l'appui et l'aide du chef d'établissement s'il le trouve nécessaire, s'il le juge nécessaire. Donc ils ont des moyens finalement d'intervenir, des moyens de recours, des moyens de solliciter de l'aide qu'on peut leur rappeler. On peut aussi, en tant que collègue, hein, aller discuter avec le collègue, lui dire que les élèves s'inquiètent et lui proposer de l'aide. Mais on peut difficilement aller au-delà. Hein. On n'a pas de rapport hiérarchique en fait avec les enseignants. Hein. Donc, si ce n'est les accompagner, les aider au mieux, l'intervention en tant que telle, c'est pas tellement nous qui l'apportons.
Je pense qu'il peut y avoir aussi une réponse au niveau de la mise en lien. Plus que, enfin, il y a du conseil, mais il y a aussi, vous avez un enseignant de français qui est en difficulté, refaire du lien au niveau de l'équipe des enseignants de français. Vous voyez, c'est-à-dire comment vous allez... Là, vous n'intervenez pas directement sur le projet pédagogique de l'enseignant, c'est pas votre... Mais par contre, ne pas le laisser isolé avec ses difficultés, parce qu'il y a des enseignants aussi qui sont vraiment en difficulté avec ça, qui savent pas comment le gérer. Et donc, recréer, j'ai envie de dire, un petit réseau, une communauté d'aide pédagogique pour peut-être transformer un peu la proposition éducative et faire en sorte que voilà, l'enseignant aille mieux, pose mieux le cadre finalement d'apprentissage, etc. Mais je pense que c'est là que c'est peut-être revenir sur la question de l'équipe, mais la question de l'équipe, elle peut être très importante. Donc, mais le rôle du CPE, il me semble que c'est un poste un peu clé, quoi. Donc, non, mais il y a l'intervention au niveau des jeunes, mais il y a aussi remobiliser peut-être une équipe autour de quelqu'un qui est peut-être un peu en difficulté, enfin dans ce que vous décrivez. Voilà. Ça peut être votre rôle, avec prudence, mais.
D'autres questions? Une dernière?
Allez, dernière. La dernière. Question. Dernière.
Moi, c'était pour revenir sur les propos racistes, parce que dans mon établissement de stage, j'ai pu observer des situations complexes de compréhension entre un élève et les personnels de l'établissement, parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait, je ne sais pas si c'est nouveau, mais les propos racistes sont parfois aujourd'hui incompris parce que y a certains élèves qui ne les voient plus au sens qu'ils ont de base et qui sont extrêmement graves, mais par exemple qui vont utiliser des propos racistes pour rigoler entre eux sans qu'ils montrent que ça les touche, et par exemple ils se renvoient la balle de propos racistes, et dans ce cas-là je ne sais pas trop comment on doit réagir, parce qu'en fait d'un côté c'est pas admissible d'accepter des propos racistes, mais sauf que si eux, ils ne le prennent pas, comme on disait tout à l'heure sur une insulte qui est une insulte à partir du moment où on se sent insulté, si eux, ils ne se sentent pas insultés, hein, je trouve que c'est un peu complexe et je ne sais pas comment réagir face à ça, comment on peut appréhender ces problèmes-là qui sont la dérive des mots, en fait, enfin, le dérivé des mots.
Ça va être, dans un premier temps, moi, je conseillerais de verbaliser, en fait, en tant que professionnel, de dire là, en fait, ce que vous dites, moi, ça me heurte, parce que, en fait, ça renvoie à des propos racistes, et d'en discuter avec eux en leur disant, tel terme, tel propos, voilà, ça vient de tel contexte, et c'est un propos raciste. Et de, moi, de vous entendre vous renvoyer la balle, en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous insulter, enfin, mais sauf que là, vous utilisez des propos racistes. Voilà, de le verbaliser dans un premier temps, et puis après d'en discuter avec ses collègues pour savoir si on met en place des ateliers, des temps de parole, des temps, plusieurs possibilités, mais de le verbaliser en disant moi mon ressenti à vous écouter c'est ça, en fait, voilà ce que je conseillerais dans un premier temps,
peut-être dans l'autre sens, de leur demander ce que eux ils mettent derrière ces mots-là, ou est-ce qu'ils les ont entendus, est-ce qu'ils les emploient dans d'autres contextes, aller chercher finalement d'où vient l'information, on l'a vu à la télé, essayer d'identifier aussi avec eux comment ils manipulent, enfin ils manipulent, ils reçoivent, ils accueillent ce type de propos, voilà, peut-être que c'est d'une manière très banal, quoi. Donc il y a des deux côtés. Il y a voilà comment toi tu le reçois, voilà ce que tu entends, voilà ce que moi j'entends. Je crois que c'est...
Tu vas intervenir ?
On va vous proposer une petite pause.